Je vous invite à préparer vos Bibles dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. On ne va pas relire toute l'histoire de Goliath. Il y a plus de 50 versets. Je n'ai pas envie de vous prendre trop de temps. Par contre, je n'ai pas envie de perdre du temps. J'ai envie de racheter le temps et on va d'abord recommander ces moments au Seigneur, à nouveau. Notre Dieu, tu vois les cœurs qui sont devant toi. Chaque personne a un cœur que tu lui as donné. Ce cœur peut être dur comme la pierre, ce cœur peut être tendre, adouci par toi, sensible. Je te demande d'agir encore ce soir, d'ôter ton cœur de pierre et de mettre des cœurs de chair comme tu l'as promis par la bouche du prophète. Agis en nous, fais-nous grâce, touche-nous ce soir, sauve-nous, guéris. Pardonne encore, puisque quelqu'un va te demander pardon. Fais ce que tu as envie de faire, sens-toi libre au milieu de nous. Notre Père, vraiment, envoie ton Esprit Saint parmi nous, afin que nos cœurs soient touchés, vivifiés, transformés, comme il nous l'a été dit, et que nous puissions repartir, une tête haute si nous sommes rentrés la tête baissée, un cœur consolé, un cœur fortifié en toi, Seigneur, et sensible à ta voix. Que ton nom soit glorifié pour tout ce que tu vas faire, et je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, qui a tout accompli, qui a tout fait pour que ce soir, nous vivions un moment particulier avec toi. Amen. On va lire les premiers versets, les trois premiers versets, pour commencer. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès-Damim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Amen. Voilà le contexte, le tableau qui est mis. Il y a une guerre qui se déclare entre les Philistins et le peuple de Dieu Israël. Il y a deux montagnes, il y a une vallée au milieu, un peuple est d'un côté, une armée en tout cas est d'un côté, une autre armée, l'armée ennemie, est de l'autre côté. Ils se font face, ils se font front et il va y avoir une guerre. Il va y avoir une guerre. Et au verset 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, il nous est présenté un homme hors norme. Hors norme. Cet homme s'appelle Goliath, un géant. Alors il nous est parlé de son poids, il nous est parlé de sa taille, il nous est parlé du poids de son armure, de son équipement. Un homme incroyablement grand, fort, qui faisait peur. Son nom est Goliath. Et il fait face à l'armée d'Israël. Et au verset 10 à 11, je vous le lis, il est dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Enfin, si on peut dire amen, c'est tout de même la parole de Dieu. On voit Goliath qui est là, qui lance un défi. Il dit, voilà, moi je sors seul. Il avançait entre les deux armées, il jetait deux filles, et dit, voilà, s'il y a un homme dans l'armée d'Israël qui est prêt à se battre contre moi, s'il me tue, alors nous serons vos serviteurs. Mais si c'est moi qui le tue, alors vous deviendrez nos serviteurs. Voilà le combat. Versets 12 à 15, il nous est présenté un autre homme qui est l'opposé de Goliath. Vous voyez, c'est un jeune homme, blond, beau de figure, qui n'a pas l'air d'un guerrier. Un jeune homme qui s'appelle David. Voilà, il a rien pour lui, en tout cas pour devenir un grand guerrier, pour faire face à Goliath, mais la parole de Dieu nous le présente, présentation de David. Et au verset 16, il nous est précisé que pendant 40 jours, Goliath va venir jeter ce défi à Israël, et l'armée d'Israël pendant 40 jours ne va pas oser s'approcher, ne va pas oser combattre, ne va pas oser relever le défi. Ça va durer 40 jours. Puis du verset 17 au verset 20, il nous est dit que David va au camp voir ses frères. Lui qui n'était pas dans l'armée, David, il était chez son père en train de garder les brebis. Il va commencer à recevoir un ordre de son père, une demande. Il va lui dire, voilà, prends ces choses-là, tu vois, un peu de pain, du fromage, toutes sortes de choses. Tu vas les apporter sur le camp et tu vas aller chercher des nouvelles de tes frères. Puis quand tu en auras eu, tu viendras me les rapporter. Et David va partir donc sur le camp. Verset 21, David va entendre les paroles de Goliath. Il arrive au moment où Goliath est là, il va lancer le défi à Israël. À nouveau, peut-être pour la 40e fois, Goliath sort et il redit la même chose. S'il y a un homme qui est prêt à se battre avec moi, qu'il vienne. Voilà, il lance un défi. David va plus loin et quand il exprime juste après, il dit qu'il insulte l'armée de l'Éternel. David, après avoir vu ses frères, il s'occupe de se défier et il dit mais qu'est-ce qui va se passer là pour celui qui arrive à le tuer? Qu'est-ce qui va se passer? Il pose des questions comme ça. David va prendre position. Il va dire c'est pas normal qu'un homme se lève comme ça contre l'armée d'Israël, se lève contre les enfants de Dieu. Ce n'est pas normal. Et verset 28 au verset 30, on va voir quelque chose. C'est que David, alors que lui, il a à cœur de relever ce défi, il va se passer quelque chose, c'est qu'il y aura une première opposition. Quelqu'un va se lever sur son chemin, et pas qu'une personne. Mais la première personne, c'est son frère. Verset 28, il nous est dit cela, c'est que Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé le peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est pour te moquer, c'est pour te distraire. Et le premier obstacle que David va rencontrer, c'est sa famille. Son propre frère qui va le juger, qui va chercher à le décourager ou en tout cas à le ridiculiser. Il remet en question les intentions de David. Versets 31 à 33, il y a une deuxième opposition. C'est le roi lui-même. David, à force de parler dans le peuple, va être appelé par le roi. Il va se présenter devant Saül et Saül va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu as à me dire ?» Et puis David va dire « Mais c'est pas normal, envoie-moi, moi je vais aller, je vais le combattre. » Et là, Saül aussi va se mettre un peu comme en opposition, va un peu comme être une barrière à David. David veut aller combattre le géant, mais Saül va lui dire « Tu n'es qu'un enfant. » Première chose qu'il lui dit, il dit « Mais tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas vu ce géant? Tu n'as pas vu ce gars-là? Mais il est immense, il fait combien? Il fait 3 mètres. Je ne sais plus combien ça faisait, les dimensions qu'on nous donne. Un peu plus de 3 mètres. Mais tu ne réalises pas. Il est géant. Tu n'as pas vu? Pour son bouclier, il faut même un homme pour porter son bouclier devant lui. Toi, tu es une puce à côté. Tu es une petite mouche, tu es une fourmi, tu vas te faire écraser. » C'est ça un peu qu'il lui dit, je paraphrase, hein, mais il lui dit « Tu n'es qu'un enfant, tu ne peux pas aller te battre avec lui, c'est un homme de guerre lui. Toi, regarde, petit blondinet là. » Je sais pas, il devait le mépriser comme ça. Première opposition de Saül. Deuxième chose qu'il lui dit, « Prends mes vêtements. » Et ça aussi, ça aurait pu être un frein pour David. Entre les deux, on voit que quand il lui dit « t'es trop jeune », David va répondre à Saül et va lui dire quelque chose. « Mais tu sais pas quoi? Moi, quand je gardais les brebis, de temps en temps, il y avait un lion ou un ours qui venait pointer son nez. Et il prenait une brebis dans sa gueule et il commençait à partir. Ton serviteur, en parlant de lui-même, il dit « je lui courais après, je l'attrapais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se tournait contre moi, je lui donnais des coups de poing, je le frappais, je le tuais. » Que ce soit un ours ou un lion. Et ce que j'ai fait à ce lion et à cet ours, je leur ferai pareil à Goliath. Je lui ferai pareil, ne t'inquiète pas. Alors Saül va lui dire ce que j'ai dit. Il va lui dire, prends mes vêtements, prends mon armure. Vous connaissez cette histoire. Et puis, il y a David, il va commencer à recevoir, peut-être, je ne sais pas, la cuirasse des reins, le casque des reins, il nous est dit. Une cuirasse. Il va recevoir comme ça toute une sorte de panoplie. Il va prendre l'épée de Saül et il va commencer à vouloir marcher pour aller contre Goliath. Et dans ses premiers pas, il va sentir une gêne. Il n'a pas l'habitude d'avoir tout ça. Peut-être c'était trop lourd pour lui, je ne sais pas. Peut-être c'était pas adapté à sa taille, j'en sais rien. En tout cas, il nous est dit que David n'a pas été à l'aise avec ces choses. Imaginez-vous, David serait sorti devant Goliath avec tout ça, l'épée comme ça. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il n'aurait rien fait. Le temps de lever l'épée, il se serait fait écraser. Mais Goliath a fait le bon choix. Il a ôté toutes ces choses, il les a posées et il est allé avec ce qu'il avait l'habitude de combattre. Qui peut me dire ce qu'il avait, David, pour combattre à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire? Il a pris 3 choses. J'entends des pierres. Combien de pierres? 5 pierres. Quoi d'autre? Une fronde pour jeter les pierres. Tiens, 4 choses alors. Il avait la gibecière pour porter les pierres. Et il avait aussi un bâton. Et ces choses nous représentent des armes spirituelles. Combien de géants se dressent dans notre vie? Combien de choses nous empêchent de rencontrer Dieu? Et ce bâton nous représente quelque chose de bien particulier, il représente la croix. Chaque fois, dans chaque affaire, on remarque que la croix est partout. Jésus-Christ est partout, le message de l'évangile est partout. Et là, il y avait le bois, la croix. Goliath, quand il va le voir venir, il va dire, mais tu viens contre moi avec des bâtons? T'as que ça, des bâtons pour te combattre? Oui, mais la croix, c'est puissant. C'est fort. Il a une fronde. Une fronde, c'est une arme qu'on fait tourner comme ça, qui donne de l'élan à la pierre et qui part. Et avec cette arme, on peut terrasser beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis, même des ennemis à distance. Et cette fronde me parle de la foi qui donne de l'élan aux pierres. Et ces pierres, ces cinq pierres, représentent une promesse que David avait reçue de la part de Dieu. Une pierre polie par l'eau, polie par le torrent. Une promesse qui est là, qui est dans la parole de Dieu, qu'on trouve dans la parole de Dieu. Vous savez quelle était la promesse que David avait? Moi, je ne crois pas qu'il y avait cinq promesses. Je crois qu'il y avait une promesse qui lui a servi à terrasser cinq géants dans sa vie. On sait que David n'a pas combattu qu'un géant dans sa vie. Il n'y a pas eu que Goliath. Il y a eu les quatre frères de Goliath qu'on voit plus tard. Et les cinq cailloux représentent les cinq géants qu'il allait combattre. Mais c'est une promesse qu'il avait reçue. Est-ce que vous pouvez me dire, sur quoi il pouvait s'appuyer David quand il est parti contre ce géant? Qu'est-ce qui a pu lui donner l'assurance qu'il allait vaincre? Qu'est-ce que Dieu lui avait dit à David? Lisez avec moi dans le chapitre 16, juste avant, verset 12. Samuel vient d'être envoyé dans la famille d'Isaïe. Il est devant la famille, il fait passer tous les enfants devant lui. Parce que Dieu lui a dit, j'ai choisi un homme pour qu'il devienne roi. Et les sept fils passent et il lui dit, mais il t'en manque pas un, il n'y en a pas un autre parce que Dieu dit que ce n'est pas cela. Ah si, il y en a un, il est en train de garder les brebis. Fais-le venir. C'est David qui vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. À ce moment-là, je suis convaincu d'une chose. C'est que David savait qu'il allait devenir roi. David savait que si le prophète sortait pour oindre quelqu'un, la seule fois où il l'avait fait avant, c'était pour oindre Saül. Avec une fiole peut-être. Lui, c'était une corne, mais il a été oint. Tout le monde savait que Saül avait été destitué du poste de roi au vu de Dieu. Et que Dieu allait choisir quelqu'un d'autre. Et quand Samuel se trouve devant David et qu'il le oint, si vous lisez tout le contexte, tout le chapitre, vous voyez que c'était clair que Samuel venait pour consacrer quelqu'un en tant que roi, pour oindre quelqu'un, pour qu'il soit roi. David savait qu'il allait devenir roi d'Israël. Il le savait. Il a dû être étonné quand un jour, un serviteur de Saül est venu le chercher pendant qu'il était en train de pêter les brebis pour qu'il aille jouer de la musique à côté de Saül. Mais ça a dû lui faire tilt. C'est ça, la promesse s'accomplit. Et quand David, alors qu'il n'est pas encore roi, il s'approche du champ de bataille, il doit voir cet incirconcis, cet ennemi qui dit des mauvaises choses contre Dieu. Il doit être sûr dans son cœur que Dieu va le délivrer, parce qu'il sait qu'un jour il va devenir roi. Et il est là pour défendre le nom de l'Éternel, pour défendre aussi le peuple de l'Éternel. Et il se lève et dit, moi j'irai. Et David s'approche, il a une promesse de Dieu, et avec sa fronde, il va la lancer en plein front du géant, et le géant va s'écrouler à terre. Le géant va être tué. Et il nous est précisé que David a tué Goliath sans épée à la main. Donc il l'a tué simplement avec la fronde et avec la pierre. Après, il a pris l'épée de Goliath et il lui a tranché la tête. Comme ça, de géant qu'il était, il est devenu un peu plus petit. Mais David a eu la victoire. Il a eu la victoire. Et vous savez quoi? Au verset 52-53, quand il a coupé la tête, il nous est dit que tout le peuple, toute l'armée d'Israël est arrivée derrière, a poursuivi toute l'armée des Philistins et a elle aussi vaincu. Avec sa victoire, il a fait que tout le peuple derrière, toute l'armée du peuple a été victorieuse aussi. Il a fait partager sa victoire. Vous vous doutez que je ne vous raconte pas ça pour m'arrêter là. Et j'aimerais vous faire une transposition. Je remarque que dans la vie de David, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à la vie de Jésus. Souvent, on se prend pour David. Et c'est bien aussi. Mais moi, j'aimerais qu'on regarde cette vie de David, ce qui nous est dit sur David, et qu'on le compare à la vie de Jésus. Et qu'on réalise un petit peu qui pourrait être ce géant. Un géant qui est commun à tous les hommes sur cette planète. Tous les hommes. On est tous confronté un jour, où on le sera, à ce géant. Qui ça peut être? Comment s'appelle-t-il? Quelque chose par quoi on doit tous passer. Vous n'avez pas d'idée? La mort. Est-ce que la mort, ce n'est pas un géant face à qui on ne fait pas le poids, qu'on ne peut pas vaincre par nos propres forces, qui peut-être effraie quelques-uns, la peur de la mort. Mais où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose par quoi on va tous passer. La mort, ce géant qu'on ne peut pas combattre et qu'on ne peut pas vaincre par nous-mêmes. Dans Romains, dans la parole de Dieu, Romains 5, chapitre 5, verset 12, il nous est dit que la mort est entrée par le péché. Pourquoi tous les hommes meurent? Parce que tous les hommes sont pécheurs. Devant Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la Bible. On est tous pécheurs. On a tous commis au moins une fois dans notre vie une transgression. Désobéi à Dieu. Et Goliath lance un défi, vous l'avez peut-être noté, s'il y a un homme qui est prêt à me combattre. Et pour vaincre la mort, il ne fallait pas plusieurs personnes. Un homme a suffi pour vaincre la mort. Cet homme, c'était Jésus, qui est descendu du ciel, lui qui était fils de Dieu, qui était Dieu. Dans sa gloire, il est descendu sur la terre pour venir vaincre la mort. Et le seul moyen de vaincre la mort, c'était de vivre une vie sans aucun péché, sans aucune faute, sans aucune transgression. Et Jésus est venu, il a passé une vie complète sans jamais péché. Jésus n'a jamais péché. Et dans 2 Timothée 1, 10, il nous est dit que Jésus a détruit la mort. Jésus a réduit la mort à l'impuissance. C'est lui qui est venu combattre ce grand géant que personne ne pouvait combattre. Il nous a dit que si Jésus est mort à la croix, mort sur le bois de la croix, il est aussi ressuscité. Vous avez vu que pendant 40 jours, Goliath a commencé à lancer un défi à l'armée d'Israël. Ça me fait penser que Jésus, pendant 40 jours, il a été éprouvé dans le désert aussi. Pourquoi j'ai pensé à Jésus? Parce qu'aussi Jésus a vu deux obstacles pour vaincre la mort et donner la vie. S'il est venu vaincre la mort, c'était pour nous donner la vie, pour nous empêcher nous-mêmes de mourir. Et il n'est pas parlé de la mort physique simplement, mais surtout de la mort spirituelle, la seconde mort, ce que dit la Bible, de l'enfer. Séparation avec Dieu. Dieu dit qu'il veut nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire le paradis, le ciel. Mais qu'à cause du péché, on ira tous, si on ne demande pas pardon et si on n'est pas pardonné, on ira tous en enfer, loin de Dieu. Et pour nous éviter cette mort, cet enfer, Jésus est venu et il a rencontré des obstacles sur son chemin. Et comme David, il a rencontré quelques obstacles et certains ont été sa famille qui se sont dressés devant lui. Est-ce que vous savez que la famille de Jésus, à quelques moments, ils n'ont pas compris sa démarche? Ils n'ont pas compris ce qu'il faisait. Le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est à 12 ans. À 12 ans, Jésus, il veut déjà servir son père. Il va dans le temple. Et puis ses parents ne comprennent pas. Pendant 3 jours, ils le cherchent. En tant que parent, je comprends. Moi qui ai un fils, si pendant 3 jours je le cherche, je vous assure que je retourne la terre. Je commence à paniquer. Et Jésus n'a pas été compris. Ils ont commencé à lui faire des reproches. Et il a dit, ne faut-il pas que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne l'ont pas compris. Jésus s'est soumis. Mais à l'âge adulte, il a repris de plus belle. Et il nous a dit même que Jésus s'est mis à servir, au point que même des moments, il n'avait plus de temps pour manger. On ne le laissait plus tranquille. Et dans Marc, par exemple, je crois que c'est ça, Marc, chapitre 3, verset 20, je vais vous le lire. Il est dit ceci, « Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. » Alors « ils », c'est Jésus et ses disciples. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. À un moment, les parents de Jésus ont dit, mais il a perdu le sens il a perdu la sagesse, il est plus sage, Jésus. Il est hors de sens. Il a perdu le bon sens, il faut au moins qu'il mange. Est-ce que ça n'aurait pas pu être un frein pour Jésus? Ah, c'est vrai, la sagesse. Il faudrait que je grandisse, que je devienne plus sage. Je crois que Jésus, il avait plutôt à nous enseigner quant à la sagesse. Mais les parents n'ont pas compris, ils se sont un peu dressés, ils voulaient se saisir de lui. Peut-être qu'ils lui ont dit quoi ? Écoute Jésus, on est tes parents quand même, sois sage, mange au moins, j'en sais rien. Je sais pas. Mais Jésus n'a dit non. Moi, je dois m'occuper des gens qui se perdent, des perdus, hors de sens. Et la famille qui s'est levée, c'est un fait. Mais il y a eu Satan, le diable, qui veut nous emporter tous en enfer, qui s'est levé aussi contre le Seigneur. Et alors que Jésus est sorti de ces 40 jours d'épreuve, de jeûne, à la fin, il nous est dit que Satan est venu le voir et lui a dit, non mais tu vois, tu veux que je te donne tous les royaumes, tu veux régner sur la terre, tu veux devenir roi, tu veux toutes ces choses, eh bien écoute, prosterne-toi devant moi. Le diable va encore le tenter et lui dire, tu vois, il l'emmène en haut du temple, il dit, mais jette-toi en bas, suicide-toi. Comme si le suicide pouvait être de Dieu, puisqu'en plus il utilise la parole. Tu vois, il est dit que si tu te jettes dans le vide, il dira à ses anges de te garder. Laissez-moi vous dire que le suicide, c'est pas de Dieu. Ce sera jamais Dieu qui vous dit, supprime-toi. C'est une détresse. Le suicide, c'est un cri profond du cœur qui dit qu'on va pas bien et qu'on a besoin de secours. Et justement, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de la mort. Jamais personne vous dira, en tout cas de la part de Dieu, c'est pas Dieu qui vous parle, suicide-toi, supprime-toi, ça ira mieux après. Parce que Dieu sait qu'après cette mort physique, il y en a une seconde qui nous atteint. Il y a l'enfer, il veut nous éviter tout ça. Alors il est prêt à changer notre vie ici-bas. Comme notre frère l'a dit, il peut tout transformer, au point qu'on a l'impression que le monde entier a changé. Et il va dire aussi à Jésus, change ces pierres en pain. Ça faisait 40 jours que Jésus n'avait pas mangé. Et le diable lui dit, tu vois ces pierres ? Change-les en pain si tu es le fils de Dieu. Et il va le tenter un peu d'utiliser d'autres armes pour vaincre la mort. D'autres armes pour régner sur la terre, pour amener la paix, pour donner sa vie, pour donner la vie. Il va essayer de le détourner de la croix. Mais Jésus va à chaque fois lui répondre. Et au bout d'un moment, il va dire, écoute, retire-toi de moi. Laisse-moi tranquille. Satan va se retirer de lui-même. À un autre moment, il y a des disciples aussi qui ont proposé à Jésus quelques solutions, quelques armes qui n'étaient pas de Dieu. Vous vous souvenez de ces disciples qui ont dit « Est-ce que tu veux qu'on prie le Père qu'il envoie le feu du ciel pour punir ceux qui n'ont pas voulu t'accepter dans cette ville ?» Vous savez, des fois, nous, on est un peu zélés. Et on dit « Ouais, mais Seigneur, pourquoi t'agis pas tout de suite ?»« Ben, agis, fais ça, allez, allez vite, pourquoi tu fais rien ? T'entends pas ?» Quelquefois, on a l'audace, le toupet de parler à Dieu comme ça. Dieu sait ce qu'il fait. Et ses armes seront toujours meilleures que les nôtres. Il ne faut pas se laisser avoir. Non, Jésus a utilisé le bois pour sauver les hommes, pour donner sa vie, pour triompher de la mort, pour vaincre la mort. Il a choisi de mourir. C'est quelque chose d'étrange, hein ? Il a donné sa vie en rançon. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a donné sa vie pour racheter, pour sauver nos vies. Il a donné sa vie pure pour sauver nos vies sales. Il a donné sa vie, qui n'avait rien à craindre quant à l'enfer, pour sauver les nôtres, qui allaient tout droit dans la mort, dans l'enfer. La fronde, Jésus a cru jusqu'au bout. Il a fait confiance à son Père. Il n'a même pas hésité à donner sa vie, à mourir sur la croix, croyant dans son Père qu'il allait le ressusciter. Jésus aussi avait une promesse sur laquelle il pouvait s'appuyer. Jésus avait entendu ce que sa mère a dû lui raconter, ce que l'ange lui a dit lorsqu'elle est tombée enceinte. C'est dans Luc, chapitre 1, verset 30. Seulement qu'un jour, alors que Jésus était petit, Marie lui a dit, sa mère lui a dit, « Tu sais, voilà, je vais te raconter comment tu es venu. Comment tu es venu sur cette terre. Un jour, un ange est venu me voir. Et cet ange m'a dit ces choses. » Verset 30, « Ne crains point, Marie. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Jésus avait une promesse sur laquelle s'appuyer aussi. Une promesse dans laquelle il pouvait mettre toute sa foi, c'est que son Père allait lui donner le règne, et pas un petit règne, le règne immense, infini, le règne le plus grand que toute l'humanité n'ait jamais vu, un règne éternel, un règne qui n'aura point de fin. Jésus n'avait qu'une chose à faire, obéir au Père, se soumettre à sa volonté. Et il a sondé les Écritures pour comprendre toute la route qu'il devait accomplir et faire. Il a passé du temps dans la prière pour que Dieu lui révèle, pas après pas, ce qu'il avait à faire. Il a dû passer du temps dans la présence de Dieu pour que Dieu lui dise qu'il donnera sa vie, qu'il doit donner sa vie, que des hommes se lèveront contre lui, mais qu'il ne fallait pas qu'il craigne, et qu'il donne sa vie pour pouvoir sauver un peuple nombreux. Sûrement que Jésus avait déjà lu Ésaïe 53, qui disait que par son sacrifice, il sauverait un peuple nombreux. Jésus avait cette promesse qu'il s'assierait sur le trône de David, son arrière-grand-père. Lui aussi, il avait un trône en promesse. Il allait s'asseoir dessus. Il nous est dit que Jésus, comme je viens de lire, il est allé jusqu'à la croix. Il a donné sa vie qui était pure, sans tache, innocente. Il l'a donné sur le bois de la croix pour que tu puisses échapper à la mort éternelle, échapper à l'enfer, pour que je puisse y échapper. Il a porté mon péché, il a porté le péché de tous pour que le péché soit jugé à la croix et que nous puissions être sauvés pour l'éternité. Et non pas mourir pour l'éternité, mais vivre pour l'éternité. Je l'ai dit tout à l'heure, David a pu sauver et accorder la victoire par sa victoire à toute une armée derrière lui, tout un peuple. C'est exactement ce que Jésus a fait. Par la victoire qu'il a eue sur la mort, Jésus a remporté une première victoire qui ouvre un chemin à tous ceux qui le veulent. Un chemin. Tous, on peut ne plus avoir peur de la mort. Tous, on peut avoir l'assurance d'aller au ciel régner avec lui. Tous, on peut avoir l'assurance que Dieu n'est plus en colère contre nous, que sa colère est tombée sur Jésus et que par son sacrifice, par son sang qui a coulé, nos péchés sont effacés et devant Dieu, nous n'avons plus que son amour. Son amour. La promesse, elle est pour nous aussi. Je fais une dernière lecture. Il est dit ceci dans Marc chapitre 16, verset 16, une promesse que vous pouvez prendre pour vous. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a un géant qu'on doit tous affronter. La mort. Et pas que la mort physique, je viens d'en parler. L'enfer. Mais il y a aussi un moyen de remporter la victoire sur ce géant. Et ce moyen, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi dans son sacrifice à la croix. À la croix, c'est simple. Il a porté vos péchés et il en a payé les conséquences pour que vous vous échappiez à cette mort qu'est l'enfer. Dans Jean encore, il est dit, « Combien même celui qui croit en moi mourrait, il vivrait quand même. Quand même, on mourrait sur cette terre physiquement, nous avons aussi l'assurance que Dieu va nous ressusciter et nous emporter avec lui. Mais je vous pose à chacun la question. Croyez-vous cela? Que oui, si la mort c'est un grand géant, Jésus l'a vaincu. Et que par sa mort, moi aussi, je peux avoir la victoire avec les mêmes armes. La croix, je crois dans le message de la croix, Jésus qui est mort pour mes péchés. La foi, je crois à ce message, je le reçois pour moi. Et cette pierre, cette promesse que si je crois et que je m'engage à obéir, puisque le baptême c'est le symbole de l'obéissance, aussi l'engagement d'une obéissance envers Dieu, eh bien je serai sauvé. Si tu crois et que tu seras baptisé, tu seras sauvé. C'est ça la promesse à laquelle quiconque s'attache, quiconque s'accroche, quiconque crie à Dieu pour le pardon de ses péchés, pour obtenir le salut et la vie éternelle. Et vous savez, je l'ai dit, il n'y a pas eu qu'un géant dans la vie de David. Le premier, peut-être, on peut le dire que c'est la mort. Un autre géant, ça peut être la maladie. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la maladie? Prendre des médicaments, mais quelquefois c'est limité. Au bout d'un moment, peu importe le traitement, ça ne peut rien faire. Peut-être que le géant dans votre vie, c'est la drogue. Peut-être que le géant dans votre vie, c'est l'incrédulité. Peut-être qu'on peut avoir toutes sortes de géants. Je vous rappelle une seule et même promesse qui peut servir dans toutes les situations. Si tu crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire si tu lui fais confiance pour tous les domaines de ta vie, et si tu lui obéis, tu seras sauvé. Et je peux dire la même chose, puisqu'en grec c'est le même mot, si tu crois, si tu fais confiance au Seigneur Jésus, et si tu obéis dans ta vie au Seigneur Jésus, tu seras guéri. Et je peux même le dire, puisque c'est écrit, si tu crois, si tu fais confiance au Seigneur Jésus, et si tu t'appliques toi à faire ce qu'il te demande, tu peux lui faire confiance pour tous tes besoins. Si le géant, c'est le salaire au bout du mois, ou les factures, c'est un géant pour toi dans ta vie, fais confiance au Seigneur, crois en lui, obéis-lui, ne trafique pas tes déclarations d'impôts, ne change pas les choses, ne magouille pas, ne vole pas, arrête-toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Fais confiance au Seigneur Jésus, fais ce qu'il te demande. Qu'est-ce qu'il veut pour ta vie? Que tu sois un témoin, par exemple. Qu'est-ce qu'il veut pour ta vie? Que tu élèves bien tes enfants dans la foi. Que tu leur enseignes cet évangile. Qu'est-ce qu'il veut? Toutes sortes de choses qui sont écrites dans sa parole et qu'il peut vous dire personnellement, dans son intimité. Qu'importe, crois, obéis et tu seras sauvé. Amen. C'est là une belle promesse. Jésus, dans Jean chapitre 11, dit, crois-tu cela? Crois-tu cela que si tu fais ces choses, tu seras sauvé? Quand bien même tu mourrais, tu vivrais quand même. Tu iras au ciel. Qui peut lever la main et dire, moi je vais au ciel? Qui a l'assurance de son salut? Moi j'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi? Pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que j'ai une promesse que je chéris dans mon cœur. C'est que le Seigneur Jésus peut tout faire pour moi, il a déjà tout fait, je crois en son message. Et je m'applique à lui obéir, et quand je me loupe, eh bien je me repens et je reviens à lui. Ça arrive de se tromper? Oui. Ça arrive de se manquer, de retomber dans les choses? Bien sûr, on n'est pas parfait. Mais comme on s'est engagé à obéir, on tient notre engagement. On demande pardon et on revient sur les rails et on avance à nouveau. Et si on fait ça, on peut être sûr d'être sauvé. Et personne, c'est pas normal que d'être croyant, de se dire croyant et de pas être sûr de son salut. En tout cas, c'est pas comme ça que Dieu veut nous avoir. Il nous veut sûr, plein d'assurance, comme David qui a pu dire, mais j'ai une promesse. Je vais devenir roi. Je suis pas encore, donc forcément, je vais sortir victorieux de ce combat. Forcément. Jésus, il a dit, tu iras au ciel. J'irai au ciel, j'y suis pas encore. Bon ben, quoi qu'on me fasse, ça aboutira de toute manière au ciel. Les vacances éternelles. La paix, plus de maladies, plus de difficultés, plus de patrons qui nous cassent les pieds. Plus d'employés qui fait pas ce qu'on dit. Plus de difficultés, plus d'examens, de contrôles, quelques-uns. Plus rien, plus de factures. Tout gratuit, parce que Jésus prépare une place à ceux qui croient et qui lui obéissent. Amen. Merci Seigneur, parce que ton message est simple. Tu as vaincu la mort. On n'a plus à avoir peur de l'enfer, de la mort. On a à avoir de l'assurance. C'est que tu peux nous sauver, à condition qu'on t'invoque, qu'on crie à toi et qu'on te fait confiance. Je t'aime Seigneur et je veux te demander vraiment de m'aider en même temps à parler de ce que tu m'as donné. Je veux te dire merci parce que tu as donné ta vie pour moi. Et je crois que tu l'as donné pour tous les hommes. Tous ceux qui croient peuvent être au bénéfice de ce sacrifice à la croix. Et je te dis merci Seigneur. Parce qu'encore dans chacun de nos cœurs, tu vas enraciner cette vérité. C'est qu'on doit avoir de l'assurance. De l'assurance. Même face à la mort, on n'a pas à avoir peur. Parce que tu veux et tu peux nous sauver. On a simplement à croire et à t'obéir. Si quelqu'un avait du mal à croire, eh bien tu fais tomber les barrières. S'il y avait des choses qui se dressaient devant cette personne, s'il y avait la famille qui faisait une pression, qui lui disait « va pas dans cette église, ne crois pas », eh bien tu lui donnes la paix dans son cœur et l'assurance que le chemin qu'elle emprunte, de lire de ta parole, d'aller dans l'église, eh bien c'est ta volonté, que c'est le bon chemin. Tu lui mets la paix dans son cœur. Et s'il y avait une autre autorité, un roi ou même quelconque personne, des amis qui lui disaient « mais tu t'égares, va pas là-bas, c'est pas la bonne chose, ne pense pas à Dieu, tu es trop jeune, tu n'es qu'un jeune garçon, tu n'es qu'une jeune fille, tu as toute la vie devant toi avant de passer à la mort », eh bien toi tu lui rappelles qu'il est important de se préparer au lendemain, de se préparer à te rencontrer et à rendre des comptes pour notre vie. Mon Dieu, je sais que tu n'aimes pas le péché, tu as horreur du péché et tu ne pourras pas accueillir quelqu'un dans le ciel s'il a du péché avec lui. Et s'il n'a pas réglé l'affaire du péché. Mais en même temps que je sais que tu n'aimes pas le péché, je sais que tu aimes les pécheurs et que tu veux les sauver et que tu veux les accueillir avec toi dans le ciel. Et tu as trouvé le moyen, c'est de les purifier de leur péché par le sang de Jésus. Tu l'as fait pour moi, tu le fais pour quiconque le veut ce soir. Seigneur, que tous nous puissions repartir avec cette assurance. Que puisque nous allons croire, coûte que coûte, puisque nous allons obéir et nous appliquer à cela, eh bien nous sommes sûrs d'être sauvés. Mon Dieu, mets des convictions dans nos cœurs ce soir, et non pas des hypothèses, des philosophies ou des religions. Mets dans nos cœurs des convictions, de la vraie foi, s'il te plaît, Seigneur. Merci pour tes promesses, merci pour ta parole, que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen.